Merci. Donc, je vais peut-être être l'un des seuls à avoir choisi de parler spécifiquement de Dobzhansky et de le prendre pour sujet principal de ma présentation. Et d'une manière, je dois dire, assez critique, pour essayer de présenter ce qui me semble les faiblesses de la synthèse néo-darwinienne. Alors aujourd'hui, ça, plus le temps passe, plus ça devient évident d'ailleurs. Et cela à travers donc cette phrase très générale et en même temps qui a connu un succès immense, qui est donc rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Alors ce qui est remarquable, c'est que pour les scientifiques, ils peuvent formuler des sortes de truismes de ce genre-là et des évidences très très générales et qu'ils continuent à passer pour être des personnes des génies, des gens très très intelligents, alors que les philosophes n'ont pas vraiment cette chance-là en général et qu'il nous faut au contraire rentrer dans les détails pour qu'on ait l'air à peu près de faire notre métier et d'être à peu près intelligent. Donc, j'aimerais faire dans cette présentation, c'est rendre compte justement du succès de cette phrase, de ce truisme, on peut l'appeler de cette formule, de cette tautologie, je dirais même, et essayer de comprendre donc quels sont les déterminants dans le parcours de son auteur, donc de Dobzhansky, et puis dans le cadre de la synthèse néo-darwinienne, qui explique justement le succès de cette phrase et aujourd'hui pourquoi il me semble qu'elle pose de plus en plus problème. Et ça, je vais l'analyser à travers trois dimensions, c'est-à-dire m'attacher à critiquer les signifiants de la notion d'évolution dans cette phrase-là, à travers ces sous-jacents, je dirais, en termes de synthèse néo-darwinienne, de mécanismes de l'évolution et d'histoire de l'évolution. Bon, ça paraîtra peut-être plus clair au cours de ma présentation. Donc, je vais commencer juste par présenter un petit peu rapidement Théodosius Dobzhansky, qui est un généticien russe, américain, né en Ukraine en 1900, mort aux USA en 1975 et aux USA où il a émigré en 1927. Grâce à sa formation de généticien sur les drosophiles en particulier, dans le laboratoire de Philippe Tchenko en gros dans l'ambiance générale de l'école russe de génétique de Tchetverikov. Donc grâce en quelque part à ce passeport, Dobzhansky a atterri aux États-Unis dans le laboratoire de Caltech de Thomas Morgan, évidemment, sur les drosophiles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait une formation de naturaliste en même temps qu'être généticien. C'était, je dirais, courant dans l'école russe. Et en fait, il a introduit aux États-Unis ce savoir naturaliste et il a travaillé sur les populations sauvages, naturelles, de drosophiles. Ce qui, en gros, il a fait sortir les drosophiles de Morgan hors de leur laboratoire et il a initié, on peut dire, aux États-Unis, la génétique des populations naturelles. Ce qui est évidemment quelque chose de très intéressant. Pour la suite, on va le voir. Il était par ailleurs spécialiste des coléoptères. Enfin, il avait aussi une formation de taxonomiste sur les coléoptères et en particulier sur les coccinelles. Donc, c'était à la fois un expérimentateur, spécialiste des drosophiles et en même temps un taxonomiste et expérimentateur de terrain. Et en fait, on peut dire que il doit sa place actuelle dans l'histoire de la théorie de l'évolution à sa capacité, à son habileté à pu articuler génétique et histoire naturelle. Et c'est ainsi qu'il est devenu un personnage central qui a permis d'articuler, on peut dire, les deux différentes phases de la synthèse néo-darwinienne. La première phase étant celle très connue de la mise en place théorique de la génétique des populations théoriques à partir des années 20 et au cours des années 30 par les trois grands fondateurs, que sont Fisher, Haldane et Wright. Et en fait, on peut dire qu'avec Dobzhansky, s'amorce la deuxième phase de la synthèse néo-darwinienne grâce à son ouvrage donc Genetics and the Origin of Species, publié en 1937, qui est en fait issu d'une série de conférences tenue à l'Université de Columbia en 1936. Et en fait, donc, grâce à Dobzhansky et donc par la suite à des gens comme Ernst Mayr, Simpson, Stebbins, Huxley, etc., la synthèse néo-darwinienne, disons la génétique théorique des populations, va être raccordée à tout un ensemble de disciplines issues des naturalistes, qui étaient par exemple la taxonomie, la paléontologie, évidemment la botanique et aussi la physiologie cellulaire. Donc évidemment, la chose que je remarquais dans mon résumé, c'est que ce n'est pas de cette époque-là que date donc ce fameux aphorisme « rien n'a de sens en biologie, donc si ce n'est à la lumière de l'évolution », alors que on peut dire qu'il résume parfaitement l'ambition de la synthèse néo-darwinienne, même si, comme l'a montré Daniel Beckmont, on pouvait déjà dire chez Darwin qu'il y avait cette ambition en fait de faire de l'évolution le centre du sens, qu'elle était la seule à donner sens à la biologie. Alors, donc cet aphorisme a été publié en 1973 dans le American Biology Teacher Journal. Un article clairement à destination de vulgarisation, je dirais, à destination de professeurs de biologie. Et il n'a pas de vocation théorique particulière. Mais bon, j'y reviendrai dessus. Alors, donc, cet aphorisme, aujourd'hui, je dirais... alors, ce qui est assez particulier, c'est que soit on peut l'entendre comme une tautologie, comme je l'ai dit, comme un truisme. Évidemment, oui, la biologie... quel serait le sens de la biologie si on enlevait l'évolution ? Aujourd'hui, on a du mal à imaginer. Donc, cette phrase paraît évidemment presque tautologique. En même temps, si on commence à aller un petit peu plus dans le détail, donc rien n'a de sens en biologie si ce n'est la lumière de l'évolution. Mais si jamais l'évolution... mais quel sens peut avoir l'évolution ? Et si jamais l'évolution n'a pas de sens, et en quel sens peut-on parler de sens ? Enfin, quelle signification mettons à sens ? Alors peut-être que la biologie, elle aussi, finalement, n'a peut-être pas tant de sens que ça. Donc si on commence à s'interroger, on peut finalement se demander si... derrière la tautologie ne se cacherait pas une coquille vide aussi. Donc c'est le risque. Donc il semblerait qu'on tombe soit de l'évidence la plus profonde, soit à la phrase la plus creuse qui soit. Donc c'est assez dangereux de vouloir analyser ce type de propos. Et donc il faut le remettre évidemment dans son contexte et voir quel sens, quelle signification a pu donner justement Dobzhansky au terme « évolution » dans cet aphorisme. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Alors évidemment, on peut lui donner le sens d'évolution, le sens que le terme « évolution » en général prenait dans la synthèse néo-darwinienne. Rappelons donc rapidement les grands points de cette synthèse. Tels que Dobzhansky les a présentés dans Genetics and the Origin of Species. Donc, en gros, il défend à partir donc des éléments de la génétique théorique des populations, que lui-même d'ailleurs il avoue clairement, et dont il ne saisissait pas vraiment les tenants et les aboutissants mathématiques. Enfin, là, il faisait confiance entièrement à Wright pour lui expliquer, pour comprendre les mathématiques qui étaient très formelles, qui étaient utilisées en génétique des populations. Mais il a eu le génie de pouvoir relier ça à la génétique, à sa spécialité de génétique des populations naturelles. Et il a exposé en termes clairs et accessibles aux biologistes non spécialistes de mathématiques, et il y en avait peu à l'époque, la théorie donc de la génétique des populations et la synthèse, surtout évidemment, entre mendélisme et darwinisme. Donc globalement, ça... cette synthèse était gradualiste au sens où elle postulait que l'évolution était graduelle, qu'elle se faisait par une succession de petits changements très fin au niveau génétique et ordonnée évidemment par la sélection naturelle. Elle était, c'était une théorie populationnelle dans le sens où elle mettait l'accent sur la diversité génétique des populations naturelles. Et en fait, c'est Dobzhansky qui a découvert, qui a contribué à découvrir l'immense diversité génétique qui existait dans les populations naturelles, alors qu'à l'époque, on pensait que souvent, elles étaient très uniformes génétiquement. Et ainsi, il a aussi montré que, selon lui, les discontinuités entre différentes variétés d'une même espèce, en particulier chez les drosophiles, étaient de nature continue. Donc, il n'y avait pas de phénomène de saltation, enfin, de phénomène entre différentes espèces ou différentes variétés. Et enfin, pour Dobzhansky, la sélection naturelle, de façon générale, est de loin le mécanisme de changement le plus important. Même si Dobzhansky, surtout au début, dans la première édition de 1937, parce qu'il y a eu plusieurs éditions de Genetics and the Origin of Species, il y en a eu au moins trois, la première édition, il laissait pas mal de place, en tout cas de considération au phénomène de dérive génétique, de drift, notamment en suivant en cela la pensée de Wright. Rapidement, il va considération pour le phénomène de dérive génétique va disparaître et en fait rapidement c'est donc la sélection naturelle et je dirais le programme adaptationniste le plus dur qui va prédominer. Alors et à ce point d'ailleurs, s'il y a une phrase à retenir dans le livre de 1937, de Genetics and the Origin of Species, c'est évidemment ce résumé très court là aussi, mais très, très, très frappant de ce qu'était la synthèse néo-darwinienne, c'est l'idée que l'évolution est un changement dans la composition génétique des populations. Point. Toute l'évolution des espèces peut être amenée à un changement de fréquence des allèles dans les populations. Voilà. Et donc finalement, que in fine, tous les mécanismes de l'évolution reviennent à des problèmes de génétique des populations. Voilà, en gros, ce qu'on trouve... Alors, dans la première édition, comme je le dis, mais surtout dans l'édition de 51 et dans celles qui suivront, où il y aura ce que Stephen Jay Gould appelle un hardening, une solidification, ou alors une dure solidification de la synthèse, ou plutôt un renforcement de la synthèse, et ça dérive, on peut dire, vers un programme adaptationniste très fort. Donc, dans ce sens-là, on voit effectivement que la synthèse néo-darwinienne a une dimension, je dirais presque moniste et synthétique, pour le moins très affirmée, même si, rappelons enfin, dernièrement, que le terme de synthèse néo-darwinienne est dû à Huxley et non pas à Dobzhansky, à Huxley en 1942, à Julian Huxley, évidemment. Donc, dans ce sens-là, évidemment, lorsque Dobzhansky parle d'évolution, on peut l'entendre comme l'évolution, comme le programme qu'il a énoncé en 1937, et comme une synthèse très forte, essentiellement autour de la génétique. Alors, là, je voudrais m'interroger justement autour de la notion de synthèse, et essayer de voir en quoi justement l'évolution est effectivement, enfin la synthèse néo-darwinienne est une quel type de synthèse il s'agit et qu'est-ce que ça veut dire donc justement évolution dans ce cadre synthétique. Donc rapidement, je distinguerai trois types d'unification, enfin de synthèse en science. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler l'unification réductive ou l'unification par réduction interthéorique, donc proposée par Nagel en 1961. Et donc c'est l'idée que deux théories peuvent être réduites à une théorie spécifique, et qu'on peut réduire une théorie spécifique à une autre théorie plus générale. Selon certains processus. Et par exemple, c'est l'idée que la génétique mendélienne a été réduite à la génétique moléculaire, tout simplement, même si y a des, on n'est pas sûr que ce soit si simple, mais c'est cette idée-là. Il y a un autre type de synthèse, c'est ce que j'appellerais l'unification synthétique. C'est un phénomène qui se produit lorsque deux classes distinctes de... Pardon, c'est une théorie qui se produit lorsque deux classes distinctes de phénomènes sont décrites par le même cadre théorique sans que pour autant les entités des deux théories initiales soient réduites les unes aux autres. Et en fait, il y a un troisième type de synthèse que je distinguerai, c'est ce que, à la suite de Dardenne et Moll, j'appellerai l'interconnexion entre domaines, qui consiste simplement à identifier des principes pratiques et théoriques de correspondance entre domaines scientifiques et distincts. Donc, j'ai trois concepts de synthèse en science qui vont du plus dur au plus mou, au plus simple. Et dans ce cadre-là, je situerai la synthèse néo-darwinienne comme le deuxième type d'unification, l'unification synthétique, comme porte son nom. C'est-à-dire, j'aimerais critiquer cette notion justement de... Enfin, essayer de voir quelles sont les limites de ce type d'unification synthétique. Ça a été fait, je m'inspirais du travail de Margaret Morrison en 2000 ou en 1999, dans un livre qu'elle a publié, Unifying Scientific Theories, où elle montre qu'il existe dans tout processus comme ça d'unification synthétique une tension conceptuelle entre les dimensions sémantiques, autrement dit d'adéquation empirique des modèles d'une théorie, et les dimensions pragmatiques, c'est-à-dire la volonté d'expliquer et non pas simplement de prédire, des théories unifiées. Donc l'unification synthétique est focalisée autour de l'identification de structures mathématiques ou de classes de modèles, et là c'est le cas avec les modèles de génétique des populations. Et pour autant, une adéquation empirique ne signifie en rien une meilleure explication du phénomène. Et Margaret Morrison prend pour exemple la physique newtonienne. Comme certains critiques l'ont remarqué, de l'unification newtonienne des mécaniques célestes et terrestres, cette unification permettait de tout calculer, mais elle n'expliquait rien. L'unification, donc, ne conduit pas nécessairement à une confirmation des théories en présence, et pas même à plus de réalisme lorsque l'adéquation entre le modèle unifié et les données d'observation ne sont pas meilleures. Donc il faut bien retenir que l'unification synthétique, la synthèse, ne conduit pas nécessairement à une confirmation des théories en présence. Et qu'au contraire, l'unification n'a parfois pour objectif que la généralité en tant que telle. C'est-à-dire on se dit, on a une théorie plus générale, eh ben, c'est très beau, c'est mieux, on trouve ça plus joli, donc c'est bien. Mais ce n'est pas forcément plus explicatif ou plus adéquat. Et en ça, je mettrai justement en parallèle la tentative donc de la synthèse néo-darwinienne avec la synthèse darwinienne, la première, celle qu'a réalisée Darwin. Et Darwin, on le sait, s'était très inspiré par un philosophe anglais de son époque, qui était William Whewell, et de son idée de « consilience of induction ». Donc de l'idée qu'on devait trouver lorsque un plus grand nombre d'hypothèses convergeaient vers une même théorie, et ben c'était en quelque part un garantie, enfin selon Whewell, ça c'était un indice que la théorie en question était sans doute plus adéquate et plus vraie, et en tous les cas touchait vraiment à la vérité. Et je cite Whewell, le fait que des règles qui surgissent d'horizons éloignés et non connectés se rejoignent en un même point ne peut se produire que pour la raison qu'en ce point réside la vérité. Et donc c'est cette idée qu'a reprise Darwin, et en se disant que autour de son concept de sélection naturelle, qui justement se focalisait, se rejoignait tout un tas d'hypothèses qu'a explicité tout à l'heure Daniel Beckmont, et qu'il y avait donc là sans doute un point de vérité tout à fait essentiel. Alors, après, si on explique ce processus de consilience chez Whewell, il est basé sur le concept de vera causa, de cause vraie. Et donc selon une cause vraie qui s'appliquerait à tous les modèles, toutes les règles en présence, et qui expliquerait in fine justement cette consilience. Et donc on sait très bien que c'est en ce sens que Darwin a revendiqué que sa théorie de la descendance avec modification par la sélection naturelle était chercher à aboutir à une vera causa, à une vraie cause conciliante. Et alors c'est un peu différent chez, il me semble, dans la théorie néo-darwinienne cette fois, et non plus comme chez Darwin, c'est que Darwin, il avait le principe de sélection naturelle chez Darwin reste un principe, une hypothèse, comme l'a montré Jean Gaillon, évidemment. Alors qu'en génétique des populations, on a, on sait très bien, Darwin n'a jamais posé la moindre équation mathématique. Alors que, évidemment, pour la synthèse néo-darwinienne, c'est différent. On a tout un corpus mathématique très formel et très poussé, et basé donc sur la génétique des populations. Et en fait, ce qui pose là problème pour réaliser justement une sorte de consilience induction et de véritable synthèse, c'est une interprétation unifiée de ces modèles mathématiques. Et c'est un petit peu différent, me semble-t-il, que ce que tentait de faire Darwin. En particulier, ce qu'a montré Morrison dans son ouvrage, c'est que, par exemple, Ronald Fisher et Several Wright avaient deux interprétations tout à fait différentes des mêmes modèles mathématiques, en quelque sorte. Et que, donc, synthèse, dans ce cadre-là, la synthèse néo-darwinienne, il faut bien faire attention, que ça ne signifie pas, interprétation unique d'un phénomène. Et donc, il peut y avoir synthèse tout en gardant une pluralité d'interprétations. Et c'est en ce sens-là que, sans doute, à la suite de Dobzhansky, la synthèse, comme je l'ai dit, c'est durci, en quelque part, c'est solidifié, et en même temps, c'est durci sur un noyau dur adaptationniste. Donc, une interprétation particulière des processus évolutifs. Et que ça, ce n'était pas du tout dans la synthèse. C'est pas un produit de la synthèse, c'est, je dirais, une dérive interprétative ultérieure. Et donc, on voit que lorsque Dobzhansky parle d'évolution, il faut être très prudent en n'établissant pas, je dirais, de parallèle direct entre évolution chez Dobzhansky et synthèse néo-darwinienne. Il y a entre les deux un filtre interprétatif, je dirais, et qui, chez Dobzhansky, est très largement adaptationniste et assez durement adaptationniste. Et c'est cette vision de l'évolution, me semble-t-il, qui pose problème. Et je vais essayer de montrer dans un deuxième temps en quoi ça pose problème. Et en particulier au niveau des mécanismes qu'invoque Dobzhansky. Alors là, c'est vrai que je vais faire un peu le raccourci. Dobzhansky a évolué dans sa pensée entre 37 et 73, donc l'année où il a produit l'aphorisme, donc que rien en biologie ne faisait sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Je dois dire, j'en reste quand même un petit peu à sa vie. Il est quand même resté très largement. Il avait quand même une vision adaptationniste assez forte, même si il parlait, par exemple, avec Kimura lorsque celui-ci a produit sa théorie neutraliste de l'évolution, qui justement était quelque part à l'opposé d'une vision adaptationniste. Et donc, au niveau des mécanismes de l'évolution, évidemment, on peut discuter les mécanismes de Dobzhansky. Et ça s'est fait, alors ça a été fait, plus qu'aujourd'hui, plus que jamais, mais ce qui est intéressant, c'est que dès 1973, un autre évolutionniste, Lee Van Vallen, produisait lui cet autre aphorisme selon lequel l'évolution était le simple contrôle, donc je cite, contrôle du développement par l'écologie. Et donc là, c'est une vision complètement déflationniste et tout à fait autre de l'évolution. qui, en quelque part, déplace complètement le centre de gravité de ce qu'on peut interpréter sous par évolution chez Dobzhansky. Chez Dobzhansky, c'est clairement la génétique, le gène, qui est au cœur de sa vision de la synthèse évolutive. Et chez Van Vallen, on voit qu'en faisant de l'évolution le simple contrôle du développement par l'écologie, la génétique n'est plus, je dirais, le mécanisme... Enfin, elle est toujours un mécanisme évidemment très, très important, mais symboliquement, ce n'est plus le centre forcément de la synthèse évolutive, mais la génétique devient une ressource ou une contrainte, mais surtout une ressource à la disposition du biologiste qui interprète les phénomènes évolutifs, et non plus le mécanisme, je dirais, principal ou le mécanisme essentiel derrière le processus évolutif et qui permet l'adaptation, etc., de tous les changements évolutifs. Et cet aphorisme de Van Vallen est, en quelque part, c'est très intéressant parce qu'aussi on peut le voir comme une revanche, une sorte de revanche des perdants de la synthèse néo-darwinienne. Parce qu'en effet, la synthèse, malgré son nom, n'a pas synthétisé, n'a pas été du tout unanime. Et elle a rejeté, au contraire, elle s'est faite, cette synthèse, par rejet de certaines traditions de recherche et de certaines disciplines, et en particulier les deux principales disciplines qui ont été rejetées par la synthèse, et ben ce sont et surtout quand elle s'est durcie justement dans les années 50-60 en programme adaptationniste, c'est le développement, l'évo-dévo, la biologie du développement et surtout l'écologie. L'écologie, il n'y a aucun auteur, aucun texte, aucun livre, aucun rien qui parle d'écologie au moment de la synthèse, enfin par les auteurs de la synthèse néo-darwinienne. Donc l'écologie était complètement ignorée et le développement, on le sait, des auteurs comme Goldschmidt ont été par exemple, pas ridiculisés, mais ont été, leurs idées ont été largement mises de côté et ont servi même de repoussoir. Donc, à partir des années 70, on voit donc revenir ces deux, en particulier ces deux disciplines en force. Et puis, à partir de là, en fait, on va avoir une contestation croissante des principes derrière la synthèse néo-darwinienne. Et parmi toutes ces critiques, on peut en citer plusieurs. Il y a eu la critique, donc déjà du programme adaptationniste. Par le premier, c'est par Kimura et donc sa théorie neutraliste de l'évolution moléculaire. Et puis, il y a eu chez les paléontologues, cette fois, les théories, la critique par Gould et Lewontin du panglossisme et en tous les cas du programme adaptationniste. Avec aussi, ils ont produit la théorie des équilibres ponctués, ils ont remis en cause l'efficacité de la sélection naturelle lorsqu'on passait du domaine de la microévolution à la macroévolution, c'est-à-dire l'évolution des lignées d'espèces et des phylums entiers sur les temps géologiques. Il y a eu évidemment le développement de l'évo-dévo à partir des années 70 aussi, les travaux de Raff en particulier, et la découverte des gènes homologues, la prise en considération de la plasticité phénotypique, de l'épistasie, et par exemple, c'est Buss qui disait en 1987 que la théorie synthétique était une théorie pour adultes. C'est assez amusant. Là, par cette expression, il voulait dire que la théorie synthétique avait complètement échoué à prendre en compte les phénomènes ontogénétiques et de développement au cœur même de sa construction. Ça ne va qu'en empirant, je dirais. Aujourd'hui, par exemple, un des livres essentiels pour voir, justement, pour aller au-delà de la synthèse néo-darwinienne aujourd'hui, c'est le livre de Mary-Jane West Eberhardt, Developmental Plasticity and Evolution, où, par exemple, elle cite cet exemple, je pense, qui est assez repris, de la chèvre bipède, ou du chevreau bipède plutôt, donc quelque chose d'assez remarquable où on voit comment une adaptation musculo-squelettique, tout à fait remarquable se fait donc sans phénomène, je dirais, génétique derrière. Ce chevreau est né sans pattes avant, et donc c'est un chevreau, une chèvre bipède qui a juste ses deux pattes arrière. Et en fait, il s'est adapté au cours de son développement à cette station bipède, plus ou moins, avec plus ou moins de succès. Et on voit une transformation du squelette et des muscles tout à fait incroyable. Et tout ça pour dire que finalement, selon West et Burhardt, peut-être que ce n'est pas vraiment la génétique qui dirige et la génétique des populations et la sélection naturelle qui tire l'évolution, mais que ce serait plutôt peut-être les accidents ontogénétiques ou de développement qui par la suite créeraient l'espace des formes ou l'espace phénotypique dans lequel après aller s'engouffrer et aller suivre l'adaptation génétique. Donc c'est un renversement total du programme adaptationniste et de l'idée que c'est d'abord la génétique en premier. Bon, donc finalement, en plus, il y a d'autres contestations. Alors, donc, au niveau, je dirais, macro-évolutif, Gould, les équipes ponctuées, j'ai déjà dit. Au niveau de l'écologie aussi, une distinction de la notion de tri et la notion de sélection. Au niveau des systèmes complexes, les travaux de Stuart Kaufman sur l'auto-organisation et qui montrent que la sélection naturelle ne peut se produire que dans un contexte d'auto-organisation bien précis, bon, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, je dirais, la synthèse néo-darwinienne prend l'eau de toutes parts et que l'idée de Dobzhansky, donc que rien n'a de sens aujourd'hui si ce n'est à la lumière de l'évolution, si on pense à l'évolution telle, enfin je veux dire, si on a en mémoire l'évolution telle que l'a pensée Dobzhansky, ben non, c'est faux, c'est complètement faux. Aujourd'hui, l'évolution telle que l'a pensée Dobzhansky, on ne peut plus dire aujourd'hui rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière d'une évolution pensée comme programme adaptationniste. Ça, c'est plus possible. Donc on voit aussi les limites de cet aphorisme. Rapidement, je dirais, alors maintenant, où est-ce qu'on va? Alors bon, j'ai pas le temps d'aller plus loin sur ce point, mais bon, certains pensent qu'il faut élargir la synthèse néo-darwinienne, c'est extended, aller vers une extended evolutionary synthesis. D'autres, au contraire, pensent qu'il faut faire d'abord une dissynthesis, c'est-à-dire, c'est Antonovic en particulier, il faut déconstruire en quelque part d'abord la synthèse afin de reconstruire autre chose. En fait, moi, ma position, ce serait rapidement, sans l'argumenter, de dire que peut-être il suffit simplement de décentrer cette synthèse et non pas de la déconstruire enfin, c'est un autre débat. Et enfin, ma dernière critique de cette idée que rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution, ce sera cette fois en entendant le terme évolution d'un point de vue historique, en tant que processus, et non plus en tant que mécanisme, comme je l'ai fait auparavant. Et donc, en tant qu'histoire, évidemment, on va dire, évidemment, la biologie est issue d'un long processus historique, et évidemment, ce long processus historique de modification, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Donc, en ce sens-là, on pourrait presque dire la biologie, c'est l'évolution. Donc, évidemment, si on identifie les deux, bon, ma foi, forcément, cet aphorisme devient un véritable truisme. Mais là aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on entend derrière les processus historiques qui constitueraient l'évolution? On peut dire que c'est une simple description. Ok, mais alors comment on rend compte de cette description historique des phénomènes évolutifs? Et là, il me semble que, il me semble qu'il y a matière à critiquer. Et en tous les cas, si on rentre un peu dans les détails, on voit que, en fait, il n'existe pas. Ce sera ma thèse. Il n'existe, il est très difficile d'imaginer. Enfin, où ça existe comme simple idéal, mais on ne peut donner une interprétation unifiée des phénomènes évolutifs dans l'histoire. Alors, je m'explique. Et là, je vais m'inspirer tout en prenant un petit peu le contre-pied d'un article de Jean Gaillon, un excellent article évidemment, comme toujours, qui s'intitule De la biologie comme science historique, paru en 2004 ou 2005 dans la revue Science Publique. Qu'est-ce que dit Gaillon? C'est que bon, que la biologie est une science historique en tant que science évolutive. Et il reprend lui aussi cette idée du travail de la pensée de Yuval et de l'idée que Yuval défend l'idée qu'il existe des sciences qu'il appelle paléontologiques, c'est-à-dire des sciences historiques, c'est le même mot, et qui, parmi ces sciences, il y a des sciences descriptives, je dirais par exemple l'histoire humaine, enfin l'histoire faite par les historiens des sociétés humaines, et qu'il doit aussi pouvoir exister des sciences paléontologiques théoriques, et que pour ça il doit exister une histoire théorique totale. Il existe des sciences dans lesquelles on peut définir ce qu'il nomme une histoire théorique totale. Et selon Gaillon, la biologie de l'évolution correspondrait assez bien à cette conception qu'avait Yuval d'une théorie historique totale, ou d'une histoire théorique, je veux dire, totale, et pas simplement descriptive, mais théorique. Et, je cite Gaillon, pardon. Donc, on nous a aujourd'hui accoutumé. La théorie de l'évolution nous a aujourd'hui accoutumé à l'idée que l'idéal de Yuval, d'histoire théorique, peut être approché dans au moins un cas. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Ce qu'on appelle théorie de l'évolution est bien une vision intégrée de l'histoire de la vie, reposant d'une part sur des généralisations descriptives, relatives par exemple à la descendance commune, à la spéciation, à la divergence des espèces, aux extinctions, et un corpus de lois causales qui encadrent ces patrons descriptifs, au premier rang desquels les processus évolutifs modélisés par la génétique et l'écologie des populations. Donc pour Gaillon, il n'y a pas de problème, il existe bien une histoire théorique totale, c'est la biologie de l'évolution. Et je cite un autre passage qui, cette fois, me semble-t-il, pose problème. Il nous dit que c'est un niveau en fait, il faut prendre cette histoire théorique totale à un niveau d'abstraction très élevé. Et il nous dit que c'est au niveau, donc c'est un haut niveau d'abstraction, celui du principe qui surplombe l'ensemble du processus historique que constitue l'évolution, que la biologie donc mérite son titre de science. Et pour Gaillon, le principe de sélection naturelle a ainsi la curieuse propriété d'être peut-être l'unique schématisme des sciences biologiques qui a un caractère nomologique, c'est-à-dire un caractère de loi, et etc. Donc c'est, selon Gaillon, le principe de sélection naturelle qui est à un niveau d'abstraction suffisant pour être un principe qui surplombe l'ensemble du processus historique. Alors, évidemment, on peut répondre à Gaillon il le discute lui-même, mais que c'est peut-être pas si simple, parce que, justement, le processus de sélection naturelle est lui-même issu du fonctionnement d'entités elles-mêmes historiques, historiquement déterminées, que sont les organismes, que sont les gènes, que sont, etc. Donc, arriver à surplomber l'histoire par des processus eux-mêmes directement produits par l'histoire, ça paraît déjà difficile à réaliser. Et puis d'autre part, je dirais, oui, mais comment interpréter cette histoire évolutive ? Et c'est là que justement ça devient très, très épineux. Parce que là, si je prends un auteur, Robert Peters, un écologiste et philosophe canadien, il distingue 8 différents types d'explications historiques. Alors, auxquelles faire appel ? Alors, pour les citer rapidement, il y a des lois empiriques. Par exemple, en histoire, c'est l'idée que, la répression entraîne, la répression de population entraîne une révolte et une guerre. Ou c'est l'idée en écologie, par exemple, que, plus des espèces seront en compétition, par exemple, dans le principe de Gauss, quoi, hein, l'idée que vous mettez deux espèces en compétition, qui va se créer un phénomène où elles vont avoir des niches séparées. Donc le principe d'exclusion compétitive, c'est un exemple de loi empirique. Il y a des lois de développement, exemple la loi de Dolo. Vous savez qu'une espèce ne peut pas, ou un phylum ne peut pas revenir en arrière dans son évolution. Il y a des, ce qu'on peut appeler des explications normatives, si là on se réfère à des normes partagées au cours de l'histoire. Exemple, l'idée que, par exemple, les populations, les sociétés humaines auraient des normes partagées, communes. Par exemple, l'idée de sacrifice parental. On peut expliquer tout un tas de processus historiques en faisant un concept à l'idée de, en se référant au concept de sacrifice parental qui serait une norme que les partagée par beaucoup de gens, que les parents devraient se sacrifier pour leurs enfants, etc. Mais bon, ça reste à voir. Il y a des explications génétiques. C'est la détermination de conditions génétiques au sens, pas au sens génétique, les gènes, l'ADN, mais au sens génétique, la genèse de quelque chose. Donc la détermination de conditions ou de causes nécessaires. Par exemple, le coup, quand on explique le coup de la girafe, c'est l'idée que à un moment donné, il y aurait eu une cause nécessaire pour que ce cou de cette girafe s'allonge, c'est que il y aurait eu une pression, il fallait être dans un environnement où il y a une pression de sélection pour que les girafes soient tentées d'aller atteindre que seules les girafes qui atteignent les feuilles les plus hautes des acacias survivent. Bon, il y a ce qu'on Peter s'appelle aussi des explications colligeantes ou je dirais congruentes. C'est l'idée qu'à un moment de l'histoire, il y a tout un tas de... Enfin, que divers phénomènes peuvent être rapportés à un même schème ou à un même... un même schème sous-jacent. Par exemple, je ne sais pas, l'idée que 68, il y a la pensée 68, enfin l'idée de 68... comme par hasard, tout d'un coup dans le monde, il y a eu comme ça un mouvement de révolte et il y aurait eu en 68 quelque chose de... qui expliquerait tous ces phénomènes de liberté, de révolte en France, de printemps de Prague, de etc. Il y aurait eu comme ça tout un mouvement de liberté. Et donc là, on fait référence à quelque chose de une sorte de consilience, de phénomène unificateur qui explique tout un tas de divers phénomènes par une seule cause, je dirais. Il y a des explications aussi narratives en histoire. C'est lorsqu'on relie des événements tous ensemble, quelle que soit leur importance, quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur causalité, par une trame narrative. Et donc ça, en quelque part, c'est le travail des historiens, des populations, des historiens humains, des sociétés humaines. C'est, en quelque part, par la narration, on abolit les hiérarchies des précédents modes d'explication. C'est-à-dire on abolit les hiérarchies relatives aux explications génétiques ou narratives ou normatives et on essaie de relier en un tout total, en une totalité linéaire, la narration, cet ensemble de phénomènes. C'est l'exemple même d'un livre d'histoire. Bon, il y a aussi des explications individuelles et par exemple là, c'est plus propre aux sociétés humaines sans doute, mais c'est expliquer un fait historique par le caractère d'un individu donné. Par exemple, dire que si Hitler n'avait pas été antisémite, peut-être qu'il n'y aurait pas eu 6 millions de victimes de la Shoah. Donc expliquer 6 millions de morts de la Shoah juste par le fait qu'un individu, Hitler, était antisémite. Et ça, on peut le retrouver en biologie. Je ne sais pas, expliquer que peut-être telle espèce a existé parce qu'un jour, tel ancêtre, ou par exemple, c'est le processus du fondateur, hein, c'est l'idée que parce qu'il s'est trouvé que c'était tel fondateur dans telle population qui a immigré donc pour créer une nouvelle population et qu'il avait telle caractéristique génétique, que la population avait cette population s'est démarquée, avait telle caractéristique et a évolué comme elle a évolué. Donc ça se retrouve aussi en biologie. Hein. Le dernier mode d'explication, c'est la reconstruction rationnelle. Cette fois, c'est défendu par Colin Wood. C'est l'idée de se mettre à la place tout simplement des acteurs historiques. Alors en histoire humaine, évidemment, c'est envisageable. Recours à notre empathie, on se dit si j'avais été à la place de Napoléon, si j'avais été à la place de qu'aurais-je fait dans ce contexte-là, etc. En biologie, évidemment, c'est peut-être plus difficile à imaginer. Si j'avais été à la place de, du premier pinson qui est arrivé sur les îles Galapagos, qu'aurais-je fait ? Bon, je pense que là, la question se pose pas trop. Hein, c'est sur se reproduire, enfin survivre et, se reproduire, ok, mais donc bon, enfin tout ça pour dire qu'il existe 8 modes de, et peut-être qu'il en existe d'autres, hein, ça, d'explications historiques. Et évidemment, tous ces modes d'explication historique ont... alors, déjà, ils ne sont pas forcément cohérents entre eux. Donc, bon, ça, c'est un problème. Ensuite, ils ont tendance... alors, on a tendance à les utiliser pour créer... enfin, surtout le mode de l'explication narrative, ça a débouché sur les excès de ces, ce que Gould appelait ces « just so, so story », ces explications ad hoc, ces histoires ad hoc, en quelque part, ces histoires qui font plaisir, pour expliquer l'évolution du passé. Et qu'ensuite, ces explications avaient aussi tendance, ces « just so, so story », l'explication du coup de la girafe, par exemple, et bien d'autres, elles avaient aussi tendance à mettre en avant la, la nature, je dirais, positive de la sélection naturelle. Et par contre, elles mettaient rarement, elles expliquent rarement là où la sélection naturelle a pu échouer, là où elle était peut-être, elle n'est pas intervenue, là où on a vu les limites de, peut-être de la sélection naturelle par rapport aux contraintes, etc., etc. Souvent, dans ce mode d'explication historique, ça, c'est beaucoup plus difficile à faire apparaître, et donc ça n'apparaît pas. Et aussi, ça, ces explications historiques, alors, elles sont incohérentes, mais entre elles, mais bon... lorsque c'est le mode narratif qui domine, c'est aussi l'idée que, sans doute, eh bien, on peut expliquer le présent et le futur comme le passé. Elles impliquent l'idée que, sans doute, l'évolution... voilà, si on comprend bien l'histoire de l'évolution, on va sans doute pouvoir comprendre le futur. Et ça, évidemment, c'est là aussi un biais historique, enfin, d'explicatif qui pose gravement problème, et que si on fait sens de l'évolution passée, évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'on fait sens de l'évolution à venir. Et qu'en ce sens-là, la biologie, si elle nous fait sens dans le passé, grâce à l'évolution, elle ne fera sans doute pas sens, elle ne fait pas forcément sens complètement dans le présent, ou elle ne fait pas sens pour le futur. C'est un peu difficile à expliquer, mais sans doute que là, on a, on voit là les limites des explications historiques, on a bien besoin d'explications causales, et d'explications peut-être de type mécaniste qui soient beaucoup plus importantes et non pas simplement des généralisations historiques. Donc il me semble que, et finalement, si on essaie de rassembler tous ces types d'histoires, en fait, de quoi on se rend compte ? Eh bien, que l'histoire évolutive, la biologie est une hiérarchie aussi. Et donc on voit que... il faudrait pouvoir rendre compte, en quelque part, de l'histoire. Il faudrait pouvoir intégrer toutes ces interprétations historiques à tous les niveaux hiérarchiques, dans tous les temps passés. Et c'est l'idée que, par exemple, l'effet papillon, enfin, qu'il y a des phénomènes chaotiques. Et donc l'idée, sans doute, que peut-être qu'il est passé, il s'est passé il y a, je sais pas, il y a allez, 10 millions d'années, un phénomène tout à fait microscopique dans une savane lointaine où, je sais pas, tel dinotherium ou toxodon a eu telle chose et qui a fait que finalement il a été conduit à être éteint, etc. Et vous vous rendez compte que finalement on obtient si on empile tous ces types d'interprétations, toutes ces histoires à tous ces niveaux, etc., on obtient une sorte de récit fractal à une dimension infinie, quoi. Enfin, ça devient et donc c'est en fait une histoire impossible, tout simplement. Et donc, on arrive, et à travers ça, on arrive vers... on n'est plus dans la science, on est dans l'intuition, on est, je dirais, dans la... pas la divination, mais on est dans l'intuition, et on arrive vers ce qu'a explicité Gould, c'est-à-dire l'idée de contingence absolue de la vie. C'est-à-dire... Bon, ben alors si on rembobine la cassette, si on refait passer l'histoire de l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, il se passera des choses peut-être complètement différentes. Peut-être que l'ADN n'apparaîtra pas. Peut-être que d'autres types de molécules, ou peut-être même que des molécules informatives de type ADN n'apparaîtront pas, et que la vie peut-être sera complètement différente. Et donc, c'est l'idée que, évidemment, de tout savoir historique, sans doute, on ne peut pas tirer grand-chose parce que c'est complètement contingent. Donc, on arrive à une relativité totale de l'histoire, de l'évolution. Alors, c'est peut-être un peu maximaliste, un peu fort comme conclusion. Mais, à mon avis, donc, si on a dans l'idée que rien n'a de sens en biologie, si ce n'est à la lumière de l'évolution, et si on prend cette dimension de l'impossibilité de l'histoire de l'évolution en compte, finalement... cette expression ne nous apporte pas grand-chose dans ce cadre-là, il me semble. Au contraire, je dirais même, elle risque de nous faire... Elle a, il me semble, impliqué un contre-feu, ce que j'appelle un contre-feu, et c'est... Et pour ça, il faut prendre la dernière dimension de cet article, c'est-à-dire il y a eu une réaction, et la réaction, évidemment, c'est malheureusement celle des créationnistes, ou aujourd'hui plutôt de l'intelligent design. Alors il faut bien prendre le fait, ça sera ma conclusion, que l'article, donc Nothing Makes Sense in Biology Except in the Light of Evolution, a été publié donc en 73 dans un magazine, une revue pardon, pour des professeurs de biologie américains. Et en fait, c'est Dobzhansky, dans cet article, intervenait clairement contre les créationnistes. C'était, en gros, il essayait de démontrer aux professeurs de biologie comment ils pouvaient présenter l'évolution pour convaincre leurs élèves que, s'ils voulaient comprendre la biologie, il fallait qu'ils comprennent l'évolution et qu'ils ne gagneraient rien soit à garder, soit à prendre en considération des idées créationnistes. Issu de religion. Alors, ce qui est intéressant, si vous l'avez lu, c'est que dans l'article, au début de son article, Dobzhansky prend comme exemple un cheikh saoudien, je ne sais plus comment, le cheikh, qui avait, au nom de la religion musulmane, donc dit que sans doute il était mieux d'enseigner en Arabie Saoudite ou dans les écoles l'histoire de la Genèse, enfin l'histoire créationniste et non pas l'histoire évolutionniste. Et d'ailleurs, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout les musulmans en majorité qui posent problème à ce niveau-là, mais que ce sont bien les chrétiens. Et surtout, donc, il faut remettre ça dans le fait que Dobzhansky lui-même était très religieux. Donc j'ai dit, il était ukrainien d'origine, russe, et il est resté toute sa vie très attaché à la foi orthodoxe, orientale. Et lui, il apparemment, dans ses notes, on trouve beaucoup de textes, de choses où il s'émerveille de la création, de choses comme ça. Et il a lui-même reçu, il était aussi très inspiré par Teilhard de Chardin. Et d'ailleurs, en 69, il a reçu le prix de l'American Teilhard de Chardin Association, Dobzhansky. Donc en fait, son article, au fond du fond, c'était quoi ? C'était c'était une argumentation pour dire que foi et évolution étaient tout à fait compatibles et que... donc quand il disait que rien ne faisait sens en biologie si ce n'était à la lumière de l'évolution... C'était aussi en tant que orthodoxe croyant, je ne sais pas s'il était pratiquant, mais en tout cas croyant, et que quelqu'un qui avait vraiment la foi, c'était en tant que chrétien ayant la foi qu'il parlait, et qu'on pouvait concilier foi et science. Et le problème, c'est que justement, je dirais que les créationnistes évidemment, cette phrase a fait rien ne fait sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Évidemment, ça a fait tellement sens pour les biologistes, les gens qui pensent à l'évolution, que ça, pour nous, ça pose pas de problème. Au contraire, ça nous réconforte en quelque part, membres et tous les gens qui n'ont pas de problème de conflit entre foi et science. Mais évidemment, ça peut être interprété, ça a été interprété par les créationnistes comme une sorte de déclaration de guerre, presque, je dirais. Et ils se sont évertués à montrer que justement, la biologie pouvait faire sens sans l'évolution. Et je dirais que ça a été presque un drapeau rouge, je pense, cette sorte de phrase, pour les créationnistes, pour les gens de l'intelligent design. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans un fait que, oui, j'ai oublié de le dire, sans doute cette phrase aussi prend sens Dobzhansky avait une certaine redoutait un petit peu les dérives réductionnistes en science, et il avait peur que donc au début des années 70, on assiste quand même au grand succès de la biologie moléculaire, de la génétique moléculaire, etc. Et il avait peur que finalement l'évolution soit réduite là aussi à des phénomènes de biologie moléculaire et qu'on ne parle plus d'évolution. Donc aussi, il faut entendre cet aphorisme dans ce contexte-là comme une certaine crainte d'une dérive complètement réductionniste de la science et de la biologie, où on irait in fine qu'à des phénomènes physico-chimiques et où il n'y aurait plus de questions d'évolution et de sélection naturelle. Et dans ce cadre-là, je dirais que justement les créationnistes ou les gens de l'intelligent design l'ont pris au mot, puisque justement ils sont allés voir, souvent ce sont des gens qui vont voir très très en détail dans les mécanismes moléculaires ce qui se passe, et justement ce sont souvent des gens, et je crois que Michel Morange va en parler, qui ont une connaissance extrêmement fine et qui souvent vont le plus possible dans les détails des machines moléculaires, des mécanismes moléculaires et des choses comme ça. Et ils s'inspirent justement de ces mécanismes très très fins et de ce réductionnisme triomphant pour dire, vous voyez, on n'a pas besoin de l'évolution pour expliquer, au contraire, même l'évolution ne nous permet pas, elle, l'évolution, elle se passe au niveau des organismes, très haut là au-dessus, alors qu'au niveau des molécules, des assemblages moléculaires, c'est tellement beau, comment voulez-vous que l'évolution ait pu mettre en place ces structures-là, ces choses-là. Et évidemment, c'était le risque d'invoquer l'histoire de l'évolution, les phénomènes évolutifs très haut, et d'abandonner justement le réductionnisme, de lutter contre le réductionnisme, parce qu'on voit que dans ce cadre-là, en quelque part, je dirais le réductionnisme. Et à travers donc les gens de l'intelligent design, à travers le réductionnisme triomphant, ont réussi à nier, d'une certaine façon, à leur façon, je dirais, l'évolution. Voilà. Mais, bon, quand même, pour finir sur une note positive, évidemment, cette phrase a aussi, donc, comme j'ai dit, en quelque part, soudé les évolutionnistes entre eux, et elle a constitué une sorte de paradigme. Moi, je dirais que c'est le paradigme de la synthèse néo-darwinienne. Et il a sans doute aussi eu des effets positifs pour stimuler la recherche en évolution depuis 1970, depuis plus de 35 ans maintenant. Voilà, je vous remercie.
Est-ce que ce n'est pas le dernier point qui est finalement peut-être le point essentiel? Tu l'as mentionné tout à fait à la fin, cette oui. sorte de réaction de beaucoup d'évolutionnistes dans ces années contre l'essor des explications purement physico-chimiques des phénomènes du vivant. Est-ce que ce n'est quand même pas ça la motivation principale de cette phrase? Au fond, c'est plutôt, rappelez-vous, vous pouvez expliquer tout en termes moléculaires, mais il vous manque... Vous avez besoin des biologistes de l'évolution pour pleinement comprendre. Un peu comme Ernst Mayr, 10 ans plus tôt, avait dit, il y a les explications physico-chimiques, mais n'oubliez pas, il y a aussi les explications évolutionnistes et vous ne pouvez pas vous passer des explications en termes évolutifs. Est-ce que c'est quand même pas ça l'explication principale de cette phrase, plus que bon, le contexte de l'année, la synthèse, etc. On est loin de la synthèse quand même dans ces années-là, alors qu'on est en plein dans... un changement de la biologie. Et c'est vrai que les biologistes moléculaires, à l'époque, bon, ils se disent bien darwiniens, mais dans la pratique, ils n'expliquent qu'en termes mécanistes. L'aspect évolutif, ils le négligent totalement dans leurs explications à l'époque.
Non, je ne pense pas. Si on se réfère à l'article, aussi bien dans l'introduction, c'est d'abord une problématique de comment enseigner l'évolution, et enfin, comment contrer le créationnisme et démontrer... comment contrer le créationnisme. Et à la conclusion de l'article, il fait référence, bon, là aussi à cette question-là, accord, foi, science, et comment l'évolution vraiment est nécessaire pour comprendre la biologie. Et au niveau des mécanismes, il dit, Évidemment, l'évolution, évidemment, on va découvrir de nouveaux, il est possible qu'on découvre de nouveaux mécanismes d'évolution et de nouvelles structures. Et ça, il dit, évidemment, à ce niveau-là, la recherche est ouverte. Et par contre, il insiste, et c'est pour ça que j'ai passé du temps, sur, par contre, au niveau de l'histoire de l'évolution, il dit, la biologie ne fait sens que par l'histoire de l'évolution. Et il insiste bien sur l'histoire. Et en fait, pour ces exemples, il prend parfois effectivement des mécanismes moléculaires qui se passent à des niveaux biochimiques pour expliquer comment justement ils ont été mis en place dans un contexte évolutif particulier, etc. Mais il cite aussi beaucoup d'exemples, surtout ces exemples périphériques, c'est la spécialisation, la diversité du vivant et la spécialisation tout à fait... remarquable de certaines espèces de drosophiles qui ne vivent que sur, je crois, certaines pattes de certains crabes, de certaines îles du Pacifique, enfin des choses tout à fait très, très remarquables, mais c'est des exemples au niveau de l'espèce. C'est pas, enfin, je veux dire, il y a des exemples à tous les niveaux où il explique pourquoi l'évolution est nécessaire, mais il ne se focalise pas plus que ça sur les aspects moléculaires. Et je ne pense pas que c'était sa motivation principale. Mais ça faisait partie, évidemment. Mmh. Et peut-être que je n'ai pas insisté assez là-dessus. Mmh. Mais je ne crois pas que c'était sa motivation principale. Enfin, je ne l'ai pas interprété comme ça.
Mais en même temps, s'il met en avant la diversité, là aussi, en réalité, il se heurte un peu à ce qu'a été la position des biologistes moléculaires dans ces années-là. L'aphorisme de Jacques Monod, tout ce qui est vrai pour Échéry Chacolli est vrai pour l'éléphant, s'était heurté de front. Justement, toute cette idée de diversité du vivant. Donc, est-ce que, en prenant des exemples, justement, de montrer qu'il y a des phénomènes très particuliers, est-ce qu'à nouveau, quand même, il ne répond pas un peu au biologisme moléculaire, à la volonté, au fond, d'unifier le vivant autour de quelques principes et de considérer comme négligeable cette diversité? On peut le voir aussi comme ça.
On peut le voir comme ça, mais non, je dis bien, on peut le voir comme ça, et je pense qu'il y avait une partie, mais. Je ne pense pas que c'était sa motivation principale. Sa motivation principale était vraiment accorder science-foi et lutter contre le créationnisme dans cet article et là. Mais alors à côté, c'est vrai que je ne sais pas s'il y avait d'autres... il a intervenu ailleurs, à côté, avec Maire, pour justement sur ces questions-là plus précisément. Là, je n'ai pas, fait de recherche là-dessus. Je ne sais pas. Peut-être ça mériterait effectivement d'être approfondi.
Je reviendrai plutôt sur la dernière partie de ton exposé où tu as parlé de l'histoire. Là, on t'a rebondi sur le fait qu'il parlait de l'histoire de l'évolution, puis après tu es passé à une attaque en règle avec des arguments qui étaient personnels apparemment. Mais j'aimerais bien que tu distingues un certain nombre de choses parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ton point de vue. Est-ce que pour toi le fait que l'évolution soit historique, c'est la même chose que l'histoire qu'on obtient quand on étudie cette évolution qui est historique? Tu as parlé, quand tu parlais en ton nom, tu parlais d'interprétation, et puis tu nous as donné une liste d'explications. Alors, est-ce que c'est la même chose? Moi, je pense pas. J'ai pas très bien compris comment tu situais Gould, parce que il me semble que Gould, comme Youel d'ailleurs, considère bien que il y a des phénomènes historiques, paléontologiques, ça veut dire les causes passées, donc des phénomènes qui s'expliquent avec des causes passées, hein, la contingence, les archives nécessaires. On recherche des causes, on essaie d'expliquer, et puis on construit une histoire. Est-ce que tu distingues ces deux aspects, c'est-à-dire le fait que le fait soit historique et qu'on puisse aboutir à une histoire, ou tu assimiles le tout et tu rejettes quelque chose que tu appelles l'histoire? J'ai pas bien compris.
Non, mon idée, c'est, premièrement, l'histoire en tant que description. Décrire une histoire, c'est, on décrit une histoire, on ne décrit pas l'histoire de l'évolution, on décrit une histoire suivant les modes d'interprétation qu'on prend. Une histoire totale, ça ne peut pas exister. Après, il n'existe pas de loi de l'histoire, donc, en gros, et c'est très, très rapidement, donc on ne peut pas rendre compte de l'évolution si facile. de loi historique de l'évolution. Quoi. Il n'existe pas de... Ou alors, je veux dire, ce sont des généralisations empiriques, mais alors, le problème, c'est qu'on tombe tout de suite dans les just-so stories, dans les inventions, dans des narrations, et je veux dire, on va au-delà des sciences. Et donc, je veux dire, défendre la science de l'évolution en ayant recours à des narrations, des just-so stories, des modes d'interprétation... de ce type-là n'est pas. N'est
oui, mais
pas.
Ça
au contraire, ça peut être un handicap, malheureusement.
Ça parce dépend que... si on place le récit comme une explication ou le récit comme le résultat de l'analyse historique. C'est-à-dire que dans l'épistémologie de l'histoire, on considère que le récit, c'est le résultat du travail de l'historien après qu'il ait mobilisé les sources, qu'il les ait analysées, critiquées, qu'il ait mis, qu'il ait conçu son intrigue classique, enfin bref, et qu'il obtienne son récit. Donc c'est pas le récit et le résultat d'un travail, c'est pas une explication a priori. Donc c'est pas. T'as l'air de considérer que parce qu'on va construire un récit, ça affaiblit quelque chose, alors que ça peut être le résultat. Certes, le récit est impossible. Après,
c'est pas
tu
que ça
affaiblit, pas compris.
Mais je veux dire, c'est que ça, enfin, face à une opposition telle que celle des créationnistes. Ça ne va pas les convaincre. Ça n'apportera rien à ce niveau-là. Et c'est plus... je veux dire... Donc, mon idée, c'est qu'il faut se concentrer d'abord sur les mécanismes de l'évolution et aller bien au-delà de la simple sélection naturelle. Et c'est à partir des mécanismes qu'on arrivera, il me semble peut-être, à convaincre ces gens-là en démontrant que ça ne marche
mais
pas.
Mais les mécanismes d'un processus historique...
Si on se réfère à l'histoire... Je veux dire, on prête toujours le flanc à une genre de et réfutation par des...
C'est les mécanismes d'un processus historique. Tu refuses que ce soit les mécanismes d'un processus historique.
Ah non, oui, ça
historique.
Peut être un processus... Évidemment.
D'accord, c'est ça. Ce qui me gêne, c'est la confusion qu'il y a entre le fait qu'il y ait le processus historique et l'histoire.
Ah, d'accord.
Tu vois, j'ai pas bien saisi comment tu distinguais les choses dans ton propos.
Non, mais évidemment qu'il y a des processus historiques, mais je dirais qu'on ne peut pas les connaître parfaitement. Donc, c'est en ça que... bon, malheureusement. Mais,
Bien, bah, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là pour ce matin. Donc, tout le monde est invité pour le déjeuner par le centre, juste au-dessus. Et alors sur le programme, c'est marqué 15h ou 15h10, je ne sais plus, pour la reprise. Donc on a le temps.